archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Les problèmes d'approvisionnement en pétrole du moment incitent le monde à basculer vers d'autres sources d'énergie pour alimenter la machine économique. Parmi ces alternatives au pétrole, il y a l'énergie nucléaire, une énergie promue depuis quelques années pour combattre le réchauffement climatique, puisqu'elle n'émet pas de CO2, énergie décarbonée donc, mais dangereuse, parce que, on l'a vu la semaine dernière, son usage civil peut se transformer en usage militaire, mais aussi parce que les centrales nucléaires ne sont pas à l'abri d'un accident aux conséquences dramatiques. On l'a vu à Fukushima au Japon en mars 2011, mais avant cela, à Tchernobyl, en Ukraine. On vient de commémorer les 40 ans de l'explosion du réacteur en 1986 et le souvenir des dégâts qu'il a provoqués continue de hanter les mémoires. Cet accident de Tchernobyl a condamné un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la centrale, mais il a surtout été l'occasion d'informations mensongères sur les risques encourus par la population à la suite de cet événement catastrophique. L'archive de Fréquence Terre que nous allons entendre date de janvier 2003 et fait le récit de ce mensonge organisé pour tenter de rassurer sur les conséquences de cet accident. On l'écoute, on se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous, aujourd'hui sur Fréquence Terre, deuxième et dernière partie de notre dossier consacré au mensonge de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, en Ukraine, dans l'ex-Union soviétique, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl s'embrase et libère dans un incendie qui durera une dizaine de jours des tonnes de produits radioactifs extrêmement dangereux. Une situation catastrophique qui a définitivement condamné ces territoires et qui continue son œuvre destructrice sur les générations suivantes. Le journaliste et réalisateur Vladimir Tchertkov, qui s'est consacré totalement à ce drame et dont nous exposons le témoignage à travers ces deux émissions sur Tchernobyl, nous décrit pour commencer la ville modèle de Pripets, la cité de la centrale de Tchernobyl.
La ville de Pripets, qui était la ville nouvelle, qui était l'utopie, qui était la ville moderne pour le nucléaire, qui était l'énergie propre, qui était en plus dans l'Union soviétique, qui était le phare du progrès dans ces régions-là, etc. Maintenant, c'est un cadavre, c'est un cimetière, c'est une ville totalement abandonnée, remplie de végétation, abandonnée, traversée par des animaux redevenus sauvages, etc. Elle est zone interdite. Mais vous trouvez des villages exactement dans la même situation, abandonnés à 200 km de Tchernobyl, parce que là, c'est la même radioactivité dans le sol et ils sont inhabitables. Il y a des dizaines et des dizaines de villages qui sont réduits dans le même état et qui sont en dehors de la zone interdite. Donc, le problème des conséquences de Tchernobyl n'est pas possible de le enfermer dans un territoire bien défini et bien clos. C'est dispersé. En plus du fait que les nuages et les aérosols ont fait également le tour du monde, et ce qui se passe au niveau de l'impact que ça peut ou ne peut pas avoir sur la santé humaine, c'est encore un mystère tout à découvrir. Mais en réalité, on n'a rien résolu. Tchernobyl, ce n'est pas du passé. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut garder la mémoire de Tchernobyl. Il y a certains qui veulent le faire. C'est une question absolument pas du passé. C'est présent et c'est surtout le futur à cause des conséquences sur les générations futures à travers l'hérédité qui est transmise à travers les organismes contaminés. Et à partir d'ici commence la désinformation sur les réelles conséquences de Tchernobyl pour la santé humaine.
« Durant l'incendie de la centrale, le vent soufflait vers le nord et la Biélorussie, toute proche, fut le pays le plus contaminé. Commentaire de la députée européenne Marianne Isler-Béguin et de Nadine Belbok du groupement de scientifiques pour l'information sur l'environnement nucléaire. Commentaire donc sur la situation dramatique actuelle en Bélarus, cet état anciennement appelé Biélorussie, dont plus de 23% de la superficie du territoire est gravement contaminée.
D'après les données scientifiques que nous avons au niveau européen, donc il y aurait 30% du territoire qui est contaminé et qui devrait être évacué. Et grosso modo, je crois qu'il y aurait 2 millions de personnes qui devraient être déplacées. Donc c'est absolument gigantesque.
La Biélorussie a été effectivement le pays le plus touché par les retombées de Tchernobyl parce que des régions lointaines, loin de Tchernobyl, à plus de 250 km de Tchernobyl, sont très contaminées. Alors que pour l'Ukraine, c'est le nord de l'Ukraine qui a été contaminé et dont les personnes ont été évacuées. Il devait y avoir un plan sur 5 ans d'évacuation des zones les plus contaminées. En fait, n'ont été évacués d'une façon obligatoire que les habitants des zones contaminées à plus de 40 curies au kilomètre carré en césium 137. C'est considérable. En tout, il y a eu, disons, 135 000 personnes évacuées en Biélorussie et certainement y compris les 24 700 de 1986. Mais il y a actuellement près de 2 millions de personnes qui vivent sur des territoires contaminés à plus de 1 curie au kilomètre carré, dont 500 000 enfants. Il y a encore une contamination superficielle en césium 137 qui est très importante dans les sols biélorusses. Il y a aussi des particules chaudes, c'est-à-dire des particules qui ont été émises par la fragmentation du combustible nucléaire et qui ont été projetées en même temps que les aérosols. Et la Biélorussie est le pays qui en compte le plus. Et dans ces particules radioactives, dans ces particules chaudes, il y a des plutoniums, bien sûr, mais il y a aussi de l'américium-241 et il y a du plutonium-241 qui se transforme avec une période de 14 ans en américium-241 et ce sont des émetteurs alpha, c'est-à-dire les plus dommageables pour la santé.
Professeur Bandajewski, qui s'est consacré à la recherche médicale sur la santé des populations victimes de Tchernobyl, qui a formé plus de 1000 médecins sur zone et qui, de notoriété internationale, est à la pointe de la connaissance dans ce domaine, vient d'être condamné par la Cour suprême de Bélarus à 8 années d'emprisonnement à régime sévère. Une condamnation terrible qui repose sur l'accusation d'avoir accepté des pots de vin de la part d'étudiants qui cherchaient à être admis à l'Institut médical de Gomel. Une accusation dénoncée notamment par Amnesty International, qui considère cette affaire comme un cas flagrant de prisonnier d'opinion. Rencontre avec l'épouse du professeur emprisonné, Madame Galina Bandajevskaya, qui est également médecin et qui travaille comme pédiatre sur les enfants de Tchernobyl.
Il est difficile de comprendre pourquoi d'autres êtres humains ont une opinion diamétralement opposée à celle des médecins qui observent et constatent des situations. Mon mari considérait toujours que le médecin, quel que soit le gouvernement, quels que soient les dirigeants, quel que soit le système politique, le médecin doit continuer à être médecin parce que la tâche essentielle du médecin est de veiller à la bonne santé des gens et tout le reste c'est une question de conscience de l'État et de ceux qui prennent les décisions. Mon mari est emprisonné maintenant depuis plus de 2 ans et nous avons considéré jusqu'à maintenant, enfin nous avons tenté de dépasser cette situation d'injustice par des actions et une défense interne au pays. Nous considérions que notre pays était suffisamment démocratique pour que cela soit possible. Mais ayant essuyé un total échec, ne réussissant à aboutir à rien à l'intérieur du pays, ayant épuisé toutes les instances et toutes les possibilités, et le fait que la santé de mon mari, surtout psycho-morale et nerveuse, empire continuellement, je pense qu'il ne me reste qu'à m'adresser à l'aide internationale. Cette question devrait être être placée à un niveau supérieur en disant que la communauté scientifique internationale devrait approfondir les recherches, les découvertes, les données offertes par mon mari, même alors qu'il est encore en prison. Le fait est que la santé de nos enfants, de nos populations ne peut pas attendre. Elle est empoisonnée, elle empire quotidiennement dans ces territoires. Et il est important pour moi de rappeler que les deux réalités sont profondément liées. Le sort de mon mari, qui est le seul chercheur qui a étudié cela dans ce que l'on a appelé le plus grand laboratoire à ciel ouvert, et le sort des populations qui souffrent, meurent et vivent mal dans une situation de contamination chronique.
Francis Perrin, président d'Amnesty International France.
Tout est injuste dans cette affaire. Il est clair que l'accusation ne repose sur rien, puisque le seul élément vraiment un peu concret de l'accusation de corruption, la personne qui a porté cette accusation s'est rétractée. Curieusement, le tribunal a enregistré l'accusation, mais pas la rétractation. Et par ailleurs, l'arrestation du professeur Bandachevski avait eu lieu dans le cadre d'un décret présidentiel contre le terrorisme. On a du mal à voir la relation entre des accusations de terrorisme et une accusation de corruption. Je crois que l'exemple Bandachevski est certainement le symbole un petit peu des liens qu'il peut y avoir entre la liberté d'opinion et d'expression, la liberté scientifique et ce qu'il faut faire pour aider une population après une catastrophe comme celle-là. Dans différents cas de figure, des scientifiques ou des médecins ont pu faire état de pressions, de difficultés à mettre sur la table un certain nombre de données considérées comme gênantes et compromettantes. Mais je crois que le cas de Youri Bandachevski est vraiment un cas tout à fait exemplaire, car là, il ne s'agit pas simplement de pression, de difficulté à s'exprimer, il s'agit de quelqu'un que l'on décide de faire condamner sur la base d'accusations complètement forgées, complètement injustes, et qui se retrouve condamné à 8 ans de prison à régime sévère. Donc c'est évidemment un exemple dans lequel on va beaucoup plus loin que de seules menaces ou intimidations ou conseils amicaux consistant à ne pas trop parler de tel ou tel problème. Plusieurs pas sont franchis dans cette affaire qui sont totalement inacceptables.
Réponse de l'ambassade de Biélorussie en la personne de son conseiller Alexandre Stomen, fait lors d'une conférence de presse à Paris pour la libération du professeur en présence de Madame Bandachevskaya.
Il y en a deux aspects ici. L'aspect de Monsieur Bandachevski, c'est une chose, et l'aspect de la lutte contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, c'est une autre chose. Là, je voudrais dire qu'il y a un mois, ici en France et à Bruxelles également, on a eu la visite de M. Tsalko, président du comité de Tchernobyl, qui a été organisé par l'association française Mutadis. Toutes ces données ont été présentées par lui d'une manière très, très claire et nette. Il a discuté d'une manière très ouverte les possibilités de coopération en vue de cette lutte, parce que on ne peut pas considérer le gouvernement pendant toutes ces années ne cache pas la vérité. Ils travaillent, ils font tout ce qui est possible. Pendant des années, 20% du budget national ont été alloués à ces buts. Ces deux choses sont à part. On ne peut pas les lier et ce n'est pas même moral.
Vladimir Tcherkov.
Pourquoi y a-t-il cette obstinée censure sur la vérité scientifique? Pourquoi l'OMS n'a pas fait ce que a fait Bandachevski? Personne n'est allé à étudier ce que a étudié Bandachevski. Personne n'a voulu investir de fonds pour faire ses découvertes. Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, parce que ça menace la crédibilité de l'atome, de l'énergie atomique. Eh bien, parce qu'il y a un accord signé en 1959 entre l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'OMS, de ne prendre aucune initiative dans le domaine nucléaire, de ne donner aucune information dans le domaine nucléaire, si les deux agences ne sont pas d'accord. Il y a un patent conflit d'intérêts. L'Agence internationale est promotrice de l'atome, l'OMS est promotrice de la santé humaine. S'il y a un accident, s'il y a une catastrophe, l'Agence de la santé humaine est paralysée. Et c'est ce qui nous a été déclaré il y a un an et demi à la conférence internationale qui a été faite sous l'égide de l'OMS à Kiev par l'ex-directeur général de l'OMS, le japonais Hiroshi Nakajima, nous a confirmé au micro, et ça a été diffusé à la télévision suisse deux fois, qu'il y a un accord qui empêche l'OMS de diffuser des informations que lui avait acquises en essayant de poser le problème, en promouvant une conférence internationale en 1995, quelques années auparavant, à Genève. Les actes de cette conférence, qui a été très contradictoire et révélatrice des conséquences de Tchernobyl, ont été bloqués par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Tous ceux qui s'y sont inscrits pour les recevoir ne les ont pas encore reçus aujourd'hui. On lui a posé la question « Pourquoi ?» Il a dit « L'Agence internationale pour l'énergie atomique, dépendante, l'unique qui dépend directement du Conseil de sécurité des Nations Unies, a une autorité supérieure. Et en plus, il y a cet accord qui nous lie et qu'il faut son accord pour que je sois libre de faire mon métier. Je n'ai pas pu le faire. La santé humaine dans le nucléaire, à ces hauts niveaux, n'est absolument pas protégée. »
Conclusion de Vladimir Tcherkov, qui durant ces deux émissions nous a fait part de ses connaissances et de son regard sur cette catastrophe sans précédent qui soulève évidemment de nombreuses questions.
L'inquiétant dans toute cette histoire, c'est qu'il y a en cours une politique criminelle à de hauts niveaux institutionnels par rapport à des populations victimes de cette industrie nucléaire. Ce sont donc des criminels, mais criminel anonyme. C'est l'ignorance, c'est la puissance invisible et anonyme d'intérêts en milliards de financements. C'est ce qu'on appelle le lobby. Le lobby n'a pas un visage. Le lobby, c'est un mécanisme. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a été créée pour empêcher la diffusion du nucléaire, de l'atome militaire. Elle a échoué complètement vu que presque tous les États, comme on les appelle voyous même maintenant, ont ce qu'il faut pour faire guerre nucléaire. Bon, parallèlement à ça, l'Amérique elle-même utilise, et on le sait, tout le monde le sait maintenant, l'uranium appauvri dans ses obus qui ont exactement les mêmes conséquences que Tchernobyl et que donc les découvertes d'un bandagev qui serait très utile pour les pauvres soldats américains qui ont été dans le Golfe. Cette agence, elle est formée de scientifiques compétents, de techniciens qui connaissent bien leur matière, qui ne sont pas des médecins, hein, mais qui se sont rendus patrons également de la radioprotection et donc de ce qui devrait regarder que les médecins, hein, puisqu'ils les empêchent d'avoir des initiatives si eux ne sont pas d'accord. Ce sont des techniciens d'excellent niveau, très capables, sur la base des analyses, des conclusions desquelles les gouvernements qui sont ignorants, les députés qui se font élire ne sont pas nécessairement des physiciens, ne sont pas nécessairement des médecins, ils ont besoin de prendre leurs décisions politiques sur la base de gens compétents. Les gens compétents, c'est ce lobby, c'est-à-dire c'est cette agence, ne l'appelons pas encore lobby, mais qui à force d'être l'informatrice dans un domaine qui brasse des milliards, des décideurs politiques des États les plus riches du monde sont devenus évidemment un pouvoir. Sans leur aval, sans leur alibi scientifique, les autres ne prennent pas de décision. Et c'est suivant leurs indications que ceux-là prennent ou ne prennent pas les décisions qui ont intérêt pour qui à ce niveau. Comme toutes les structures bureaucratiques et institutionnelles, ça finit par gérer et alimenter pour soi-même. C'est devenu une entité d'un pouvoir non légitimé par aucune élection, par aucun contrôle social, qui gère ce pouvoir immense en agissant librement sur les institutions, sur les politiques, parce qu'ils détiennent le savoir. Et le conflit aujourd'hui, en effet, pour le salut de la civilisation, de la planète à ce point-là, est entre scientifiques. Scientifiques courageux qui osent mettre en risque leur liberté, leur carrière, leur réussite sociale pour faire des recherches qui révèlent cette vérité qui est l'objet du mensonge propagé et dominé par cette institution qui pratiquement ne travaille que pour elle-même.
Ainsi se termine ce dossier consacré à Tchernobyl sur un sujet réalisé cette semaine par Dushko Sekulic, mixé par Emmanuel Jandet sur une présentation d'Arnaud Jouve. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage réalisé en janvier 2003 qui nous invite à nous poser deux questions. Quel est le risque réel d'un accident aujourd'hui et quelle confiance peut-on accorder aux informations en cas de crise ? Bien. La probabilité d'un accident comme la catastrophe de Tchernobyl est moins forte dans les conditions similaires. La technologie a évolué et depuis Fukushima, les normes de sécurité ont été renforcées partout dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que le risque soit nul aujourd'hui, mais il est fortement encadré et surveillé. Concernant l'information produite par les États, il est vrai, la communication a tenté de minimiser les dangers des conséquences de l'accident. Ce qui explique une certaine méfiance aujourd'hui. Mais les choses ont changé, les pays démocratiques ont des autorités de sûreté indépendantes, il existe des réseaux de surveillance internationale et les mesures de radioactivité sont prises par de nombreux acteurs, outre les États, des ONG et parfois même des citoyens, ce qui rend une dissimulation plus compliquée. En résumé, le risque d'un accident grave existe toujours, mais il semble qu'il est mieux maîtrisé aujourd'hui qu'en 1986. Alors croisons les doigts, espérons que Tchernobyl reste pour toujours un mauvais souvenir, sans équivalent, aujourd'hui ou demain. Fin de cette émission en direct sur 98.1 ou en podcast sur le site alternantefm.fr. Une chanson pour finir, comme d'habitude, et pour démarrer la journée avec un moral d'acier, il suffit de laisser derrière soi les pensées négatives et de se concentrer sur la beauté du monde. Les idées noires, on les laisse à Bernard Lavilliers.
Il se lève, c'est long, il écrase son égo.
À la semaine prochaine.
Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine. La sécurité, un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras?
Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway. Patrick, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire. Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis.
Quand tu es dans mes bras,
je m'enfuis.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je m'enfuis.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.